this one?
Oh, yeah.
Oh, great. Good stuff.
I was just doing that as a backup.
Okay, it's good to have backups and backups. Thank you.
Eh bien, mesdames et messieurs, c'est une fin de matinée. Il est 11h45, le 18 octobre 2012, et vous êtes dans la salle Metro East. Nous allons commencer notre séance sur le système de suspension rapide uniforme URS. C'est comme Oursa, l'ours. J'ai un panel extrêmement impressionnant. Je suis Hall of Nordling du personnel de l'ICANN pour la mise en place de ce système URS. À ma droite, Christine During du Forum national de l'arbitrage qui va faire une présentation un petit peu plus tard. À ma gauche, David Roach Turner, qui travaille pour la propriété intellectuelle, la WPO, et Monsieur Bartolio et Old McGrady, qui fera une courte présentation. Donc, sans plus attendre, mesdames et messieurs, j'aimerais maintenant vous présenter l'ordre du jour. Je ferai une brève mise à jour, une petite introduction de l'URS. Nous aurons des suggestions au sujet de l'URS de la part de fournisseurs potentiels, suivis par des commentaires et des débats. Et ensuite, on parlera de processus et de ce que nous ferons ensuite. Donc, ceci dit, une mise à jour rapide de la situation. Eh bien, il était une fois l'URS qui a été conçu par deux groupes de communautés, IRT et STI, pour complémenter ce qui existait déjà et qui a été utile pour le nouveau GTLD. Ceci pour résoudre les problèmes de droit d'auteur pour différents noms de domaine. Ça semble être rapide et cher. Non, pas cher du tout, pardon, $500. On avait l'intention que ce soit rapide et peu cher. Mais les années passées, on n'a pas été sûr que les objectifs aient été véritablement atteints. Avec cette procédure telle qu'elle avait été ébauchée et rédigée, il y a donc eu des suggestions de changements pour ceux qui étaient à Prague, vous êtes au courant, pour mieux répondre aux objectifs de l'URS. Nous avons suivi cela par un nombre d'initiatives récentes. Nous avons compilé les suggestions de Prague comme point de départ. Nous les avons mis en 4 catégories. Pour voir si le problème est grave, important, large, eh bien nous avons décidé de faire une requête d'information le 24 septembre pour collecter des informations. À quoi ça ressemble lorsque l'on prend en compte le monde entier? Nous avons également contacté le GNSO et la LAC, puisque ils étaient au centre même des efforts de la collectivité dont j'ai parlé auparavant, afin d'obtenir des conseils pour les processus. Si l'on veut changer quelque chose, comment s'y prend-on d'une manière équilibrée pour prendre en compte tous les points de vue qui sont tout à fait essentiels? Nous avons également établi un micro-site, une nouvelle page web pour les activités récentes au sujet de l'URS. Vous pouvez lire cela. Et nous avons eu un webinaire pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, pour voir les différentes préférences des communautés. Et nous voici aujourd'hui réunis en cette salle pour entendre les prestataires de services proposer des solutions et nous parler du problème. Donc, sans plus attendre, j'aimerais dire qu'il y a une certaine urgence, puisque nous devons avoir des prestataires de services prêts pour la mise en place l'année prochaine, au tout début de l'année prochaine, avant que les premiers GTLD soient donc mis en fonction. Donc, il y a beaucoup de pression, puisque nous avons avancé un petit peu le calendrier. Et maintenant, j'aimerais donc passer le micro à Christine Dering, du Forum national de l'arbitrage. Donc, s'il vous plaît, madame, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Christine. Rain. Je suis un petit peu malade et souffrante, donc j'ai eu un petit rhume, donc je m'excuse de la qualité de ma voix. Donc, en tant que fournisseur qui donne des services UDRP sur plus de 19 000 plaintes sur 12 ans, les problèmes que nous avons vus par rapport à l'URS, tel que couramment proposé, les éléments clés pour que cela coûte moins cher. Et ce que j'aimerais démontrer également, c'est un portail que nous avons développé. Nous avons développé pour, par exemple, le XXX. C'est un système de portail qui pourrait être utile, le système forum. Nous pensons que cela permet d'éliminer certains coûts et de moins dépenser. J'aimerais principalement attirer l'attention sur les problèmes qui restent toujours. On nous a demandé de limiter les coûts. On nous a dit dans le RFI, dans les requêtes d'information, que les coûts représentent toujours un obstacle. Il y a beaucoup d'ambiguïté, je pense, pour le moment, pour ce qui est des prestataires de services. Donc, il n'y a pas une entité sur la planète qui peut soumettre une réponse au RFI sans répondre à ces questions par eux-mêmes. J'aimerais donc souligner où sont ces problèmes et ce qu'il faut débattre en tant que collectivité pour essayer de régler ces problèmes. Et c'est des choses dont on parle depuis quelques semaines. Donc, l'URS a donc trop de points de contact administratifs qui requièrent d'engager un personnel supplémentaire. Et donc, lorsqu'on y pense, on demande un tiers de moins ou un tiers de ce que l'on demande en général, et il y a besoin de fonds pour l'administration, donc il ne reste que très peu d'argent pour le système d'examen. Donc notre prochaine suggestion, c'est d'envoyer peut-être le cas à un examineur expert. Ça ne doit pas dire accroît les déficiences. Donc, le fournisseur va ne pas gagner d'argent, même avec des améliorations technologiques dont je vais parler. Peut-être qu'il y aura quelques profits, mais très peu. Donc, le fournisseur de services fait fonctionner le programme, peut-être en ne payant pas l'expert, en permettant aux fournisseurs de services d'utiliser le personnel interne, un avocat interne, quelqu'un qui revoit, passe en revue tous ces cas, quelqu'un qui coûte moins cher. Donc, nos suggestions principales ont trait à la communication, qui doit être électronique, par voie électronique, l'URS pourrait utiliser un système de portail, et je vais vous faire la démonstration du système de portail avec des emails auxquels on répond automatiquement. Nous sommes d'accord avec toute la communauté. C'est très important de notifier la personne qui a déposé une requête. Nous avons besoin d'envoyer des emails et nous devons avoir la possibilité d'envoyer des télécopies et des courriers par voie postale. Donc, pour il doit y avoir le système d'enregistrement et la preuve qui peut être validée par le TMCH. Je sais que dans la version de départ, il y avait une itération de l'URS qui avait suggéré qu'il y ait un rapport direct pour les systèmes juridiques qui ont trait aux droits d'auteur. Pour le moment, on ne sait pas si le prestataire de service va se connecter ou pas. Il doit se connecter, s'il va payer pour ses données. C'est une ambiguïté, une nouvelle fois, au niveau des coûts qui existe dans ce système URS. Et ça, c'est ce dont je parle aujourd'hui. Est-ce que ce sera automatisé ou est-ce qu'il y aura un membre du personnel qui s'occupera de cela? Est-ce que ça va coûter aux prestataires de services de l'argent? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions, on en parle dans la communauté. Est-ce qu'on doit avoir un rapport direct entre ce qu'on appelle Clearing House et le fournisseur de services? Donc, on préférerait que on garde le système dont on avait pensé, auquel on avait pensé au départ. Mais on ne sait pas si la communauté va être d'accord avec ça. Nous sommes un petit peu inquiets. Ça va être un autre point donc, de contact et un autre point qui va générer des frais. Donc, s'il y a de plus, pourtant le plus à la controverse, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est que s'il y a une personne qui ne répond pas, répond pas dans un certain cas. Vous savez, pour l'URS, il y a une période de 6 mois durant laquelle il faut répondre. Il peut y avoir une extension de 6 mois également. Donc, notre proposition, c'est que, par défaut, il y ait un juriste qui soit formé, pas quelqu'un qui ait beaucoup d'expérience, qui ne soit pas un expert, un examinateur expert, non. Donc, il n'y aurait pas de détermination publique et nous réduirions ainsi le temps de réponse. On garderait les 6 mois, ce qui est très long, mais on n'inclurait pas l'extension de 6 mois parce qu'il faut décider après un moment plus court que l'affaire est close. Ce sont de meilleures pratiques commerciales, selon nous, par rapport à la comptabilité annuelle et ainsi de suite. Donc voici quelques suggestions que nous avons. Ce sont des suggestions que nous avons pour mitiger un petit peu et limiter les inquiétudes et les préoccupations de beaucoup de personnes. C'est d'inclure un examen par quelqu'un, pas seulement une personne chargée d'administration, et que ce ne soit pas public. Donc, il n'y a pas de problème pour s'il y a une erreur d'une entreprise. Vous avez toujours cette période de 6 mois qui vous permet de clarifier la situation. Voilà notre élément clé pour limiter les coûts, mais pour répondre quand même aux inquiétudes de la communauté. Donc, nous avons d'autres suggestions. Par exemple, au niveau de l'URS, les 24 heures ne prennent pas en compte les week-ends, il faut dire un jour ouvrable. Ça, ce n'est pas précisé. Il y a 10 termes qui devraient être définis. Donc, dans tout le système URS de suspension rapide uniforme, il y a encore des éléments qui doivent être modifiés. Nous avons beaucoup de suggestions, mais nous n'avons pas encore une politique, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous ne sommes pas encore au niveau de définition d'une politique. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir un document final. Et je crois que c'est mon dernier transparent. Pour le moment, pour l'URS, il n'y a pas de vérification de déficience pour la réponse. Donc, il n'y a pas de travail administratif à ce niveau. Donc, j'aimerais vous montrer rapidement à quoi ressemble notre système RES, notre portail. On a utilisé la technologie pour véritablement avoir un processus plus aisé, plus facile, plus simple. Ça, c'est pour le cas RES, qui était du XXX. Donc, vous sécurisez votre inscription, vous rentrez, et le représentant est d'accord pour promettre donc qu'il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Vous devez donc cocher certaines cases. Une fois que le parti tiers est dans le système, vous remplissez vos informations de contact. Donc, c'est assez facile et rapide à faire. En plus, ce système se rappelle de toutes vos informations de contact. Donc, vous pouvez facilement réutiliser ces informations si vous n'êtes pas sur le même ordinateur. Donc, il y a des registres SIM. Nous avons le WHOIS qui est automatiquement extrait. Et vous avez la possibilité de mettre à jour ces informations, ces données. Donc, vous choisissez si c'est une affaire de droit d'auteur, de marque commerciale ou pas. Et vous pouvez avoir une plainte, indiquer quelle plainte vous avez, limiter le nombre de caractères dans votre plainte. Et vous pouvez télécharger des documents. Donc, cela réduit donc les points administratifs parce que là, on n'a pas besoin de s'assurer qu'on a tout au niveau administratif. Donc là, vous avez des plaintes qui sont beaucoup plus solides et vous ne pouvez pas vous tromper en utilisant ce portail et ce format Internet puisqu'on vous demande de remplir tous ces formulaires. Dans le RES, il y a d'autres facteurs. Vous pouvez cliquer dessus. Ce n'est pas nécessairement applicable dans le cas du RES. Donc, ensuite, on envoie des emails aux différentes parties prenantes et vous voyez que vous avez un formulaire PDF. Donc, vous ne le voyez pas, mais on n'a pas les adresses email. C'est un test, ça. Donc, vous pouvez mettre des PDF. On reçoit un retour. Nous avons bien reçu votre courriel. Vous avez enregistré une demande. Voilà comment vous pouvez nous contacter. Voici notre portail. Voilà les systèmes informatiques et les pages à utiliser. Donc, excusez-moi, j'ai cliqué sur mon écran. Oui, voilà comment on peut répondre. Donc, là, ensuite, vous avez en haut la possibilité de cliquer. Vous avez un lien hypertexte. En haut, ça montre ce qu'a dit la plainte. Pour répondre à la plainte, donc vous pouvez relire la plainte, être au courant. Donc, vous pouvez cliquer ici. Vous n'avez pas besoin de repartir sur le document PDF. Vous pouvez répondre à ce niveau et utiliser les informations qui existent déjà. Voilà ce que voit le panel. Ça, c'est un système de test. Donc, là, il y a beaucoup d'affaires inventées, mais vous voyez, donc, pour sélectionner un cas, une affaire, c'est la même chose que voit la partie tierce. Et les interactions se font par l'intermédiaire de ce portail. Vous pouvez payer, vous pouvez décider de vous retirer. Et ensuite, le panel prend une décision. Pour le RES, c'est un petit peu différent. Mais en ligne, on peut bâtir la décision, donner des éléments qu'on indique en paragraphes, avec des paragraphes. Et la décision va être sous format PDF. Donc ça, c'est très rapidement à quoi ressemble notre logiciel, notre portail, comment fonctionne notre système, quelles technologies nous utilisons et comment nous pensons que si nous pouvions utiliser ce système de portail, eh bien, on pourrait mieux gérer l'URS, on pourrait limiter nos coûts pour les URS. Est-ce que nous savons quel type de volume nous devons traiter plutôt que d'avoir beaucoup de soutien administratif? Vous pouvez utiliser un soutien technologique. Je crois que j'ai presque terminé. Donc, oui, vous avez encore 3 minutes. Oui, je voulais simplement souligner le fait qu'il y a des questions qui restent de la part de la communauté à régler parce que on va soumettre des réponses RFI, demande d'appel aux réponses et aux requêtes. Donc, actuellement, dans le UDRP, on a un programme qui nous permet de voir s'il y a des déficiences dans le système. Il y a des noms de domaines qui sont protégés. On peut dire aux personnes qui déposent une plainte, on peut voir s'il y a d'autres plaintes qui ont été faites pour les mêmes noms de domaine. Donc, qu'en est-il des respects de la vie privée et de informatique et liberté? En ce qui concerne les Whois et ces contacts d'information, vous vous rappelez qu'on a une période de 6 mois, vous vous rappelez qu'on a exactement un examinateur. Donc les questions se posent, est-ce que l'examinateur va être payé ou pas? Donc il y a toujours des questions à régler. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y a plusieurs personnes qui répondent? Il y a des problèmes aussi pour les documents, pour l'ébauche des documents, la rédaction des documents. On ne semble pas limiter la taille des plaintes, mais on limite le nombre de mots par page pour les textes explicatifs. Donc il y a pas mal d'ambiguïté à ce niveau-là. Il y a une version qui nous dit que tout sera en anglais, mais cette nouvelle version ne le dit pas. Ça doit être envoyé dans la langue de la région, telle qu'on la voit dans le Whois. Donc, problème de vie privée, une nouvelle fois. Entre la France et les États-Unis, par exemple, s'il y a une communication entre le français et l'anglais, qui va être nécessaire. Donc, et on ne sait pas dans quelle langue est la plainte, où viendra la plainte. On ne connaît pas tous les éléments, on ne connaît pas tous les problèmes, toutes les parties tierces. Donc, il se peut qu'on ait des besoins de traduction. Donc, il va y avoir, s'il y a une plainte, qu'on utilise nos technologies, c'est une chose, c'est un nom de domaine. Oui, je vous dis actuellement que je peux faire ça pour $500. Mais il y a beaucoup d'éléments variables. Ça fait 12 ans de pratique que nous avons dans ce domaine. C'est à chaque fois différent. On a des problèmes parce que chaque affaire est différente. Donc j'ai parlé des interactions avec la clearinghouse pour les marques commerciales. Nous avons vu le changement de contenu une fois qu'il y a un défaut de la plainte. Ceci permet de limiter le nombre de procédures administratives. Toujours des questions ouvertes. Après défaut, il faut se résoudre à utiliser l'adresse IP d'origine. Qui est responsable de ça? Qui est responsable d'obtenir toutes les informations et de conserver toutes les informations? Donc, on doit encore définir aussi s'il y a des problèmes, s'il y a des abus, s'il y a des faux. Qu'en est-il s'il y a des procurations? Et il faut absolument que tout le monde travaille ensemble pour gérer ces problèmes et aussi suivre ces informations. Donc, il faut que les prestataires de services fassent cela, ça ne doit pas coûter cher. Il faut absolument que les personnes qui ne travaillent pas de manière honnête soit mise à l'écart. Donc, je ne sais pas si... on a beaucoup de choses à débattre, hein. Comme vous l'avez vu, beaucoup de questions ouvertes. Donc, attendez un petit peu plus pour poser des questions. Mais j'aimerais répondre à un des points, l'interaction avec les marques commerciales, le clearinghouse, donc le système de centralisation qui va permettre de gérer les marques de commerce. On est toujours en train de négocier la mise en place de cela, mais ce serait à la personne qui fait une plainte, qui dépose une plainte, d'obtenir la justification du droit de la marque qu'il possède ou pas. Donc il doit justifier et prouver qu'il possède une marque qui est enfreinte par un autre prestataire de service. Donc, je vais maintenant donner la parole à David, qui va nous parler de ce qu'il en est de la propriété intellectuelle et de WIPO pour URS 2.0. Donc, oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup de cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle David. Nous travaillons dans le domaine de la propriété intellectuelle, un centre d'arbitrage et de médiation, de nombreux cas. Je ne suis pas ici parce que je m'intéresse tout particulièrement à travailler dans le domaine des URS, mais je m'intéresse à l'efficacité des URS. Et je crois que c'est un débat important. Nous espérons que ce sera une contribution utile. Nous avons entendu dans l'introduction, et je crois que vous connaissez bien cela, le système de suspension rapide uniforme. C'est pour limiter les cas d'abus, pour être efficace, pour avoir un processus qui coûte peu cher, pour inclure un effet de protection du registrant, et donc complémenter l'UDRP, donc pour qu'il n'y ait pas de problème de cybersquattage. Nous avions un modèle, un mécanisme qui existait de suspension expédiée ou rapide, ça existe depuis longtemps. Nous avons des informations à ce sujet, vous pouvez le voir sur notre site, nous avons des commentaires, nous avons déjà fait beaucoup de travail dans ce domaine, sur le site web de l'ICANN, vous trouvez aussi des informations, parce que je crois que Christine a couvert beaucoup de points, beaucoup de problèmes que nous avons tous, dont nous sommes conscients pour la mise en place du URS, et je serais très heureux d'y répondre sous forme de questions. Vous pourrez trouver une copie de cette présentation sur le site web de la séance de Toronto, de cette séance de Toronto. Donc je vous suggérerais d'observer cela de près. Donc vous avez également des copies papier qui sont dans la salle. Et il me semble qu'on a eu beaucoup de débats à ce sujet. Les principaux coûts de URS 6. Ce qui compte principalement, c'est ce que vous avez à l'écran. Ce qui est résumé ici, c'est les frais pour nommer un expert. Le panel est en général prend en compte deux tiers des coûts et nous avons besoin d'un expert néanmoins qui va faire dans 30 jours après non-soumission de réponse une enquête. Donc l'expert doit conduire cette analyse et la complexité procédurale, Christine nous en a parlé, cela a un impact fort sur notre mécanisme. C'est assez complexe, peut-être trop complexe pour les différentes parties et pour les registres. Donc c'est un modèle qui inclut beaucoup de phases et de couches. Il y a beaucoup d'options, on peut répondre, on a des cas par défaut. On a parlé de la période de 30 jours, puis de 6 mois. Donc on donne un remède sur lequel on peut revenir. Et cela indique que si on ne connaît pas le succès, eh bien le nom de domaine ne sera plus, ne sera pas résolu, le problème ne sera pas résolu. Donc, il y a un volume important pour régler ces litiges. Il est important de souligner également que notre ligne de conduite nous demande de notifier le registrant dans les langues principales de la région, ce qui n'est pas incertain, mais imaginez notifier un URS en Inde où il y a une douzaine de langues officielles. Donc, ce que nous avons tous fait collectivement depuis Prague, c'est de réfléchir un petit peu au succès qu'on peut obtenir avec les URS et l'URS 6. Je crois que toute la communauté a beaucoup parlé de cela et je crois que vous avez fait bien grouper les suggestions et quatre catégories. Considérer des options pour faire participer l'ICANN, l'ombudsman de l'ICANN dans le processus, être plus efficace dans notre processus et notamment pour l'enregistrement des plaintes. Un système qui permettrait donc d'être plus efficace, d'être en ligne, d'être formalisé et d'avoir un rapport direct avec des bases de données administratives. Donc avoir un rapport direct avec la personne qui est l'entreprise qui analyserait ça, le cabinet peut-être qui analyserait ça. Et qui serait approprié pour l'ICANN de subventionner ce modèle, le WIPO, W-I-P-O, y a pensé. Donc, il y a quelques détails, et j'ai déjà souligné certaines questions, certaines considérations. Les meilleures approches sont sur l'écran, vous pouvez les voir. Mais le modèle que nous avons proposé d'obtenir, c'est de simplifier l'URS, qu'il soit plus efficace, tout en préservant des problèmes que pourraient avoir les registrants. On en a parlé à Prague. Vous pouvez le voir, c'est visualisé sur l'écran. Et vous auriez une plainte qui arriverait. Qui arrivera en ligne, qui serait dirigé au fournisseur de services, un processus de validation qui serait fait par le prestataire de services pour s'assurer que on a reçu toutes les preuves des droits éventuels des registrants. Et s'il y avait des problèmes avec la plainte, eh bien, on ne suivrait pas l'affaire. L'affaire sera caduque et cela sans problème pour le suivi des plaintes. Ce ne serait pas une détermination substantive. Nous filterions donc les plaintes abusives qui n'ont aucun mérite au sens procédural du terme, qui sont abusives ou qui ont été payées. Donc, le registre ou le registraire, le bureau d'enregistrement devrait bloquer le nom de domaine pendant un certain temps, parce que sont terminées l'enquête et l'affaire. Donc, il y aurait une notification par email avec des envois papier, par fax, par télécopie. Comme je l'ai mentionné, il faudrait clarifier la manière dont tout cela fonctionne. nous devons régler le problème linguistique. Il y aurait donc des dates limites pour donner une réponse. Et il y aurait également un rappel qui sera envoyé avant la date où les réponses sont dues. On parlera des conséquences également de ne pas donner une réponse, de ne pas répondre. Il y aura une suspension à ce moment-là des services. Et ce ne serait pas contre le registrant, mais il y aurait des conséquences objectives, suspension, réversible, sous submission d'une réponse et qu'on obtient une réponse dans le cadre et dans le respect de la date limite. Il serait important que la réponse soit simple, le formulaire soit simple, le formulaire de réponse soit simple, mais cela requerrait aussi une certification pour que on ne reçoive pas des réponses tout simplement pour gagner du temps, une réponse sans information, une réponse peuplée d'un mot seulement, donc un formulaire à peine rempli ne compterait pas comme un formulaire. Donc le mécanisme inclurait une période de 15 jours, et nous avons déjà cela dans nos règles, qui permettrait à la personne déposant la plainte de lancer un processus URS avec nomination d'un expert pour faire une détermination substantielle de l'affaire, du cas et du problème. Si la personne répondant ne répondait pas, donc par défaut, il n'y aurait pas de résolution du problème. Et nous l'avons vu sur notre site web, sur le site web, s'il n'y a pas de réponse, eh bien, le nom de domaine est suspendu jusqu'à ce qu'une réponse arrive. Ça, durant toute la période d'inscription du site web. Si, à tout moment, à la suite de l'obtention de ce remède temporaire, la personne voulait répondre, eh bien, la personne pourrait le faire sans payer quoi que ce soit pour le reste de l'enregistrement du nom de domaine et de sa durée. Donc la suspension pourrait être levée. C'est important. Il y a des cas où la personne qui doit répondre n'est pas en mesure de le faire. Ça peut être une perspective un petit peu différente qui soit prise en compte. Et les raisons pour proposer une option de ce type, c'est que il n'y a aucun danger de ne pas être en mesure de trouver, sans payer quoi que ce soit, une remédiation, ou simplement en donnant une réponse. Les avantages de ce modèle, selon nous, sont résumés sur l'écran. C'est tout à fait linéaire, il y a une économie d'échelle, c'est simple, c'est efficace. C'est plus simple que le système UDRP. Cela inclut donc plus de sauvegarde pour le registrant, plus de confiance dans le mécanisme, selon nous, de la part des registrants. S'ils pensent qu'il y a une affaire, qu'ils ont véritablement un cas solide, eh bien, ils peuvent déposer une plainte très facilement et demander que l'on nomme un expert, un examinateur, ça serait peut-être payant, pour déterminer les critères pendant. Et ce serait donc une décision simple pour que ça ne coûte pas trop cher, pour que ça soit efficace. Et on pourrait toujours utiliser le système UDRP. Nous pensons que c'est un élément logique, une avancée logique, des progrès nets. Ça devient un mécanisme qui pourrait fonctionner par défaut. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires par défaut. Pour les litiges qui ne sont pas bien réglés, ce serait très utile parce que cela introduit également une division entre les deux mécanismes. Il n'y a pas de doublon des fonctions, il n'y a pas de problème que les gens aillent voir à l'étranger et il n'y a pas de jurisprudence inconsistante parce que vous obtiendrez un résultat avéré. Je crois que c'est un concept important. C'est un concept durable, c'est ce que je voudrais dire à la collectivité, à la communauté. Et je veux dire non pas seulement en termes de faisabilité d'appel d'offres, mais on peut continuer à long terme à offrir ces services parce qu'il y a un vrai risque. Si on est trop ambitieux, si on a moins d'expérience en tant que prestataire de service, eh bien, on a peut-être envie d'offrir un coût qui est trop compétitif et à l'avenir, on ne pourra plus offrir ce puits de prix. C'est pour cette raison qu'il faut absolument éviter l'impression qu'on est un fournisseur de services à but lucratif. Ce n'est pas le cas, nous ne gagnons pas d'argent avec cela. Nous pensons simplement que c'est un modèle important et que nous devons continuer à offrir, que ce soit pour les personnes qui doivent répondre à des plaintes ou des personnes qui déposent des plaintes. Donc, les frais resteront raisonnables et il est important de parler de ces risques. Parce que si on subventionne cela par la CAN, eh bien, c'est une solution seulement pendant la durée de la subvention. Une fois qu'il n'y a plus de subvention de la CAN, eh bien, on retombe dans un problème assez sérieux. C'est pour cela que nous proposons cette option qui est durable, qui peut tenir la route longtemps. Il faut y réfléchir, il faut que la communauté réagisse à ce sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, eh bien, merci beaucoup, David, pour cette présentation. Merci, Christine. Je crois qu'on a beaucoup couvert. Il y a sûrement des questions importantes qui vont se poser. Comment pouvons-nous approcher un tel problème? Des modifications au système URS, qui sera une version 2.1. Beaucoup, beaucoup d'informations. Vous avez beaucoup donné de détails. Moi, j'aimerais qu'on pose 5 minutes de questions de clarification uniquement. Le débat n'est pas pour tout de suite puisqu'il y a encore d'autres présentations. Donc je vois qu'il y a une question de clarification de Jeff. Oui, Jeff Newman. Oui. J'étais pas là au début, donc j'étais au conseil GNSO, désolé. Donc, est-ce que vous avez dit exactement quel était le prix? J'ai vu que un tiers, c'était pour les frais administratifs. Mais le prix total, c'est combien? Combien ça coûte le prix exact? Vous avez dit que c'était combien? Oui. David, vous voulez répondre? Oui. Nous avons mentionné un prix par rapport au DRP. Et dans le prix pour... C'est 1 500 $ américains pour un nom de domaine américain, 1 000 $ pour le panel, 500 pour l'administration. Je n'ai pas d'estimation de prix pour l'URS. Oui, nous avons des frais similaires. C'est à peu près ça. Donc, c'est à peu près la même structure. Nous avons pas encore offert de prix pour les URS. Donc, quand est-ce que ça va être publié, quand tout le monde va pouvoir prendre ça en compte et le lire? Si je me rappelle cela à la fin du mois de novembre, c'était une date limite. Le 20 novembre, je crois. Oui, oui, eh bien, À la suite de cela, je veux vérifier, mais ces informations que je dois vous donner, des informations qu'on ne peut pas vous donner, mais je crois que d'ici peu, on pourra rentrer dans plus de détails. J'ai un petit commentaire. Quand est-ce qu'on peut faire les commentaires? J'aimerais revenir pour des commentaires. À la suite de la présentation de Paul. Oui, Philippe Corwin, conseil de l'Internet. Moi, j'aimerais avoir quelques clarifications. Dans les cas, c'est très important parce que le conseil d'administration a eu des pressions du GAC pour que l'on passe seulement à 14 jours. En cas de défaut, est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce que les droits de la marque commerciale, Christine a parlé d'une détermination prima facie, et donc est-ce que c'est dans une situation très claire, ou est-ce qu'il y a des zones d'ombre, des zones un petit peu plus grisées? Donc si vous pouvez m'éclairer là-dessus, oui. La proposition, c'est que quelqu'un qui connaît la propriété intellectuelle et les marques commerciales soit en mesure de faire un examen, voit la preuve de l'utilisation, il y a tous les arguments. C'est comme New Star, possibilité, c'est comme New Star pour .us, oui, il y a une détermination première, prima facie, et nous avons une lettre qui est envoyée, et s'il n'y a pas de réponse, eh bien, la décision, se poursuit. Donc, c'est un processus assez similaire à ce que nous avons déjà aux États-Unis, à Newmark, Lexis. Oui, nous contemplerions la validation des droits de la marque commerciale, et cela se ferait via la clearinghouse, et il y aurait une validation de l'enregistrement de la marque de fabrique. Il y aurait un gestionnaire de cas. Nous avons des avocats, des juristes spécialisés dans la propriété intellectuelle. Donc, il y aurait des experts engagés par nous qui se pencheraient dessus également. Oui, you m'excuse, Christina, je me demande si vous avez un modèle de contrôle de qualité pour le modèle, notamment concernant le bureau central des marques. Donc, quelle est la structure? Est-ce que l'on vérifie que la marque soit bien dans le bureau central? Est-ce que ça coûterait peut-être moins cher d'adopter une autre pratique? Donc, je ne comprends pas très bien votre question, monsieur. Vous demandez si ça coûterait moins cher si on travaillait directement avec le bureau central des marques pour vérifier qu'il y ait donc une inscription et un usage de par le passé de la marque de fabrique, de la marque commerciale. Oui, il faut vérifier la signature, c'est assez simple, non? Oui, c'est possible de travailler de cette manière, ça sera peut-être plus facile, mais le problème qui se pose selon moi, c'est combien ça coûterait. Et quelles sont les responsabilités civiles en tant que prestataire que nous-mêmes, nous allions vérifier des données? Oui. Oui. On vérifie simplement la signature. Oui, ça peut fonctionner. Oui, l'URS y pense. C'est une option. La preuve de l'utilisation, ça peut être quelque chose qui est soumis et qui peut être fourni par le bureau central des marques à la personne qui dépose la plainte. Moi, je crois que le meilleur scénario serait que la plainte fournisse cette information du bureau central des marques. Ce sera donc une pièce jointe provenant du bureau central des marques et vérifiant l'utilisation de sa marque, cette marque commerciale. Donc ça ne coûterait rien de plus. Hein. Cathy, vous avez une question de clarification. Cathy Clemens, moi je suis STI, je suis arrivé un petit peu en retard, mais ma question est au sujet de WIPO. Donc, dans la revue initiale de la plainte, vous avez dit que vous vouliez valider les droits de marque commerciale. Vous recherchez quoi ? Qu'une chaîne de caractères a un droit d'une marque de commerciale, est une marque commerciale ? Ou est-ce qu'il y a des conflits ? Je ne comprends pas très bien. Deuxièmement, en ce qui concerne la langue du registrant, l'URS, c'est la langue de l'enregistrement qui peut être utilisée. Donc, c'est un nombre de langues plus limité. Peut-être que ça résout votre problème. Troisièmement, est-ce que, dans le cadre du STI, on a beaucoup de défauts, d'affaires qui se règlent par défaut? Donc, saviez-vous que ne pas avoir de défaut automatique, c'était une négociation de la communauté. On a parlé pendant des heures et on ne voit pas le défaut comme une option procédurale, mais comme un droit. Oui, c'était pour Christine ou pour David ? David. Oui, merci de ces questions, Cathy. En ce qui concerne l'analyse initiale, ce serait une analyse similaire à ce qui est fait où le fournisseur de service vérifierait l'affaire, spécifierait la teneur des droits sur la marque commerciale. Les preuves doivent être fournies par le fournisseur. Et ça ne serait pas, si je comprends bien votre question, ce ne serait pas une analyse par le fournisseur au sujet des similarités, ce serait une analyse procédurale sur la possession des droits commerciaux. Nous reconnaissons qu'il y a une absence parfois de similarité et d'analyse des similarités dans notre modèle, mais nous pensons que le remède qui est prescrit, qui est une suspension temporaire, et le fait que la personne qui répond peut répondre formellement, ça, c'est donner un seuil assez large pour gérer les risques de détermination contre le répondeur, qui peut toutefois, à tout moment, réagir sans que ça lui coûte quoi que ce soit, ce qui représente un remède à sa suspension. Concernant la langue, c'est une excellente suggestion, mais selon nous, ça ne fonctionnerait pas d'utiliser le modèle UDRP. Oui, peut-être que j'ai mal compris. Vous vouliez qu'on détermine la langue, mais la procédure et que l'URS n'a pas de mécanisme pour demander quoi que ce soit pour assurer la langue du contrat d'enregistrement. On pourrait demander l'obtention d'un exemplaire du contrat d'enregistrement. Mais ce n'est pas facile d'assurer cela parce que les bureaux d'enregistrement ont plusieurs langues de travail, souvent. Donc c'est pour cela que cette suggestion ne fonctionnera peut-être pas très bien dans ce modèle. Et en ce qui concerne la troisième question, je suis bien conscient des débats qui ont existé sur l'URS6 et je suis très sensible par rapport à cela et je ne crois pas que l'on puisse causer un problème quelconque, lorsque nous essayons de faire une contribution constructive pour que les coûts soient limités tout en préservant des garde-fous pour le registrant à long terme. Donc je pense que nous avons un modèle qui peut permettre d'obtenir cela. La communauté n'est peut-être pas d'accord. Peut-être que vous avez en effet beaucoup analysé la situation. Nous sommes tout à fait conscients de cela. Si ce n'est pas satisfaisant, eh bien, nous en tirerons les conclusions nécessaires. Oui, c'est une question de clarification, mais il y a... Oui, ça clarifie les choses. Oui, lorsqu'il y a un litige à ce niveau, eh bien, on ne suspend pas tout de suite le nom de domaine, mais on donne 30 jours de plus pour trouver une solution. Donc, c'est assez intriguant. Je ne sais pas si c'est satisfaisant, mais je crois que vous avez trouvé des éléments intéressants. Est-ce que ça coûte moins cher peut-être d'avoir pas tout de suite des juristes qui prennent en compte cette situation, mais d'avoir peut-être le soutien à la clientèle, l'administration. Oui, lorsque je fais les cas Nexus, je fais la première analyse. Ouais. Nous le faisons au niveau interne, en premier. Oui, merci beaucoup pour toutes ces questions et pour toutes les réponses que vous avez fournies. Maintenant, j'aimerais passer à la présentation de Paul et de Bart. Et vous allez nous présenter quelque chose d'assez différent par rapport aux premières propositions que nous avons vues. Je crois que ça va être tout à fait différent. Oui, je suis d'accord. Je ne vais pas vous parler de Monty Python qui disait toujours « je vais faire quelque chose de complètement différent ». Mais nous allons... je m'appelle Paul McCarty, je suis juriste à Wilson & Strawn. J'ai travaillé avec Cathy au STI, donc on connaît bien ses problèmes. J'aimerais dire tout d'abord que je n'ai que du respect pour le WIPO et le travail de Cathy également, les autres présentations. Mais je crois que dans ce cas, nous ne sommes pas sûrs que ça va assez vite. Et en tant que communauté, avec beaucoup de données qui circulent, le temps manque un peu. Donc on va parler du fait que les changements matériels à l'URS ne sont pas nécessaires pour limiter les coûts. Et je crois qu'on n'a pas à ne plus utiliser d'experts juridiques. Ce sont des changements matériels à l'URS. J'ai l'impression qu'on repart à zéro et que ça ne sera pas utile. Vous avez Brett Tolio, c'est un juriste de propriété intellectuelle. Et il s'intéresse maintenant à une réponse au RFI, donc je vais lui donner la parole et nous serons disponibles pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Brett Bertolio, je suis un spécialiste de la propriété intellectuelle, je suis juriste et j'ai lancé un processus légal pour bâtir une équipe qui peut gérer un haut volume, gérer de l'étranger un haut volume. Nous avons fait cela avec trois leviers, la technologie, le personnel et différentes techniques. On peut utiliser cette même approche pour l'URS telle que cela existe actuellement, sans voir de changement substantif, pour fournir un prix beaucoup plus bas. Nous n'avons que quelques minutes, donc j'aimerais parler de cette approche. Au niveau de la technologie, c'est un élément important. Je crois qu'on a beaucoup parlé de cela aujourd'hui. Ce que nous avons vu c'est que on utilise des personnels à l'étranger, ce qui nous permet d'être beaucoup plus compétitifs au niveau des prix. Nous avons une automatisation des tâches également. On utilise la technologie au maximum pour l'évaluation objective des informations et on se concentre sur l'optimisation du travail des juristes pour prendre des décisions subjectives. Et lorsque vous avez les tâches qui sont découpées de cette manière, eh bien, il y a une grande amélioration que l'on peut obtenir. Nous avons vu des contextes où nous avons fait des analyses légales de documents et nous avons tiré des conclusions. Nous avons optimisé notre plateforme technologique et cela fait la différence. Nous sommes passés d'un processus en ligne à un autre processus en ligne et nous avons eu une grande amélioration de la qualité de 20%. Donc, c'est bien d'avoir un portail, mais je crois qu'on peut être encore plus efficace. On pense au personnel. L'UDRP, l'expérience est évidemment critique. Pour l'URS, c'est différent, ce n'est pas l'UDRP. Donc, il y a des opportunités de penser de manière plus fraîche et plus novatrice en ce qui concerne le personnel que l'on va utiliser. Et il y a une grande expertise dans le monde tout entier sur la propriété intellectuelle. Donc, la gestion du processus, est-ce que cela existe aujourd'hui? C'est une procédure à haut niveau. Il y a beaucoup de détails de mise en place. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de possibilités pour limiter les coûts. C'est un processus 6 sigma pour être plus efficace. Il y a beaucoup de techniques commerciales peut-être utilisées pour améliorer ce processus et arriver à des coûts beaucoup moindres. En conclusion, nous pensons que on peut peaufiner un petit peu le processus et Christine a dit des choses très intéressantes. Nous pensons également que nous avons un système très performant. Je crois que c'est possible d'effectuer cela. Et je sais que je n'ai pas le temps donc de m'étendre. Donc, la réponse que nous avons faite va s'appeler Interspensive. Et si vous êtes dans la salle et voulez voir une copie confidentielle de la réponse, envoyez-moi un email et nous vous enverrons les informations. Nous savons qu'il reste encore quelques détails, mais on peut encore travailler avec la communauté pour régler cela. Donc, nous sommes ici tout à fait heureux de répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. J'ai peut-être écorché vos noms, je ne sais pas, mais avant d'envoyer la possibilité à la communauté de s'exprimer, de poser des questions, donc vous dites qu'il y a encore quelques, il faut encore peaufiner un petit peu le processus. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner, deux ou trois améliorations, petites modifications que vous voudriez apporter au processus? Oui, Christine a parlé du calendrier des 24 heures, alors qu'il faut dire jour ouvrable, c'est très important pour nous. Clarifier la langue, le critère linguistique est très important. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas gérer toutes les langues, mais il faut que l'on sache exactement ce que nous devons effectuer. Et le nombre de plaintes ou de noms de domaine et le nombre de plaintes par nom de domaine, moi je crois que c'est un problème de prix, de tarification. On n'a pas encore tout fixé. Si Le prix est assez bas, et eh bien, avec les économies d'échelle, nous pouvons gérer cela. Donc, des questions à Brad et Paul des autres panélistes. Donc, vous pouvez commenter et poser des questions. Jeff, allez-y. Oui, je voulais dire merci beaucoup. C'est la concurrence. C'est ce qui aurait dû être fait il y a des mois et des mois. On a demandé cela dans la communauté. J'ai vu vos présentations, vos propositions. C'est pourquoi nous travaillons de cette manière. Ce n'est pas à des prestataires de services de déterminer nos politiques, mais lors de la mise en place, après avoir défini des politiques, eh bien, on parle à des prestataires de services. Présentation tout à fait excellente, Brad et Paul, c'est ce dont on a besoin. Nous devons ne pas s'inquiéter pour le moment des aspects politiques, de définition des politiques. Il y a peut-être encore des déficiences, on peut encore y travailler, mais comme je l'ai dit au conseil GNSO, on ne doit pas se concentrer sur le développement de nouvelles politiques avant d'avoir évalué les réponses de l'appel, les requêtes, des questions, les RFI. Donc, je crois que vous pourrez repartir peaufiner vos projets une fois que vous aurez eu notre retour d'information. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Donc, merci Jeff. Christine voulait répondre à cela. Oui, Jeff, je voulais commenter et dire tu n'as pas entendu la première proposition, mais j'ai dit que très clairement, si on fait des appels téléphoniques et qu'on fait un sondage par téléphone, on va avoir une certaine réponse. Mais vous avez vu toutes les ambiguïtés. Ce n'est pas un document fini. L'URS a des suggestions. Il y a des parenthèses, il y a des hypothétiques. Il faut répondre à beaucoup de questions dans le cadre de l'URS. C'est très difficile d'avoir une estimation des coûts. Peut-être que ça coûtera moins cher que l'UDRP, mais je ne veux pas le savoir avant qu'on ait répondu à toutes les questions. Est-ce que vous avez lu l'URS et vous avez vu toutes les questions qui restent encore? Oui, absolument. Et bonne question. Nous devons y répondre à ces points hypothétiques, mais le processus est bon. Désolé d'avoir raté votre présentation, mais le WIPO a proposé de changer le processus. C'est un autre débat. C'est la même chose avec les requêtes. Donc, je comprends tout à fait la situation, mais développer de nouvelles politiques, c'est une chose. Ensuite, nous verrons les chiffres. Jeff, ne t'éloigne pas trop. Je veux te poser une question. Quelle sera la prochaine étape? Est-ce que tu vas pouvoir nous aider avec quelques modifications? On a parlé d'une équipe au conseil GNSO qu'on pourrait mettre en place. Mais tout le monde s'inquiète et se préoccupe des détails. Apparemment, il reste beaucoup de travail à faire. Ce qu'a dit Christine est important. Mais moi, j'aimerais reparler du travail du conseil GNSO. Oui, moi, je voulais évaluer les réponses au RFI. Nous sommes un bureau d'enregistrement. Je serais très heureux de faire partie d'une équipe d'évaluation. Donc, moi, je sais au niveau de la logistique comment on peut couper les coûts. Moi, je serais très heureux de répondre à ces questions. Changement des politiques, ça, c'est autre chose. C'est pas moi qui m'en occupe. Oui, vous avez mentionné que vous êtes prêt à offrir un T-shirt. Donc, peut-être que vous voulez offrir vos services aussi, votre chemise. Donc, c'est comme ça qu'on va gérer les noms de domaine. Oui, peut-être un t-shirt sportif. Phil? Oui. Phil Corian. Je crois qu'il va y avoir un appel d'offres. Un devis qui va présenter le modèle actuel sans changement et d'autres nouveautés. Moi, ce qui m'a inquiété, il n'y a pas de panel, il n'y a pas d'examinateur pour WIPO. Donc, c'est un niveau plus élevé, il me semble qu'il faudra avoir pour apporter des preuves. Donc, ça peut être un nom générique. On ne sait pas s'il y a un problème de marque commerciale qui existerait déjà. Et on ne sait pas si c'est de bonne foi ou de mauvaise foi. Et suspendre un domaine parce que... C'est grave, la suspension d'un domaine, me semble-t-il. Il y a des textes de loi très controversés, SOPA, sur les droits d'auteur, sur les marques commerciales. Ça a été si controversé que l'Internet s'est arrêté pendant un jour, que la Maison-Blanche a été submergée d'emails et a décidé de ne pas suivre cette législation et de ne pas poursuivre ce texte de loi au Congrès qui aurait dû passer. Donc, s'il n'y a pas d'analyse de l'utilisation des domaines, moi, ça ne me paraît pas acceptable. C'est mon commentaire. Merci beaucoup. Oui, des commentaires. Est-ce que l'on peut passer aux prochaines personnes qui veut poser une question? Oui, présentez-vous. Oui. Ak Moscovitch, je suis de Toronto. Je suis nouveau. Je ne connais pas bien l'URS. Je connais bien les problèmes des noms de domaines. J'ai géré avec WIPO et NRF beaucoup de litiges. Et en 1999, on avait l'UDRP qui était considéré comme étant une procédure pour gérer des cas assez simples, des abus de noms de domaine, d'inscription. Donc ça, c'est pour d'autres types de cas. Lorsque je vois les modèles qui ont été présentés, les questions qui sont posées, toutes les plaintes qui doivent être déposées, c'est vraiment très substantiel. C'est un petit UDRP. Peut-être que c'est une bonne chose à mettre en place, mais je ne sais pas. Ça fait 13 ans que je fais cela. Vous êtes des experts. Depuis 13 ans, vous aussi. Je ne vois pas comment vous pouvez limiter la participation humaine. Ça serait vraiment révolutionnaire, une nouvelle approche. Mais est-ce que ça va être un secret ou c'est quelque chose qu'on peut débattre? Non, ce n'est pas révolutionnaire. C'est utiliser l'URS. Regardez les noms de domaine, regardez les marques de fabrique qui existent déjà, les marques commerciales, et voir où on en est. C'est un travail quand même de spécialiste, voir le site web, comment il est utilisé, disant oui, ça c'est un problème, ça ce n'est pas un problème. Ça se passe assez rapidement. L'URS, c'est pas l'UDRP. Nous avons maintenant un UDRP qui requiert 10-15 pages. Nous avons panélistes qui posent des questions très complexes. Donc l'UDRP, c'est ce que c'est. Très bien, mais peut-être qu'on n'a pas toujours des cas très clairs. Donc, c'est une différente politique. Je suis d'accord. Nous sommes tous des experts, dites-vous. Moi, pas moi. Il y a d'autres personnes qui sont dans la salle qui sont beaucoup plus des experts. Oui. Je ne sais pas si on va lui donner longuement la parole parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Nous devons terminer à 13 heures. Donc, soyez très rapide dans vos commentaires, John. Oui, ça sera assez long. Hein. Oui, lorsque l'on parle toujours de l'URS, j'aimerais vous encourager de réfléchir à ce modèle de suspension, de défaut, parce que l'évaluation substantive devrait être très simple, comme ça a été dit par Phil. Vous voulez lire quelques cas, ça prend 10 secondes. Il y a les cas en attente au WIPO. Nestlé, Porsche, Deutsche Bank Inde, le Waldorf Astoria de New York, Gucci Outlet. Ça va prendre plus de 15 secondes, croyez-moi. Lorsque il y a Behive.com, Arat, il y a d'autres noms de domaines. Donc, ce n'est pas un processus qui requiert beaucoup de délibération. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci, John. Je suis désolé, mais nous n'avons plus le temps de poser des questions ni de faire des commentaires. Nous avons déjà dépassé notre horaire. Oui. Caroline Bedford de Nestlé. Je suis content que vous m'aviez donné l'exemple de Nestlé. Nous en avons d'autres. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas revoir le processus s'il ne fonctionne pas. Ça va être utilisé à long terme, donc c'est le moment de revoir le processus. Ça doit être efficace, ça doit être durable, et c'est très important que ça soit très durable. L'UDRP, on peut l'utiliser, nous avons des cas parfois plus complexes, mais l'URS, ça serait très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et ceci dit, pour conclure, nous avons eu 3 différentes approches qui vous ont été présentées, de nombreux commentaires qui ont été effectués, beaucoup de choses à faire. Nous allons regarder de très très près et avec beaucoup d'intérêt ces questions. Et après avoir parlé au conseil du GNSO à la LAC, eh bien, ils sont d'accord pour avoir une équipe de rédaction et sous condition, évidemment, les fournisseurs de services doivent en dire plus sur les coûts éventuels. Pour prendre cela en compte, nous avons beaucoup de documentation qui a été donnée aujourd'hui. Donc, j'aimerais citer le conseil du GNSO à effectuer cela et inciter les prestataires de services également à faire leur travail. Nous devons répondre à toutes les questions qui restent en suspens. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Et vous allez avoir... c'est le début de la fin. Il y a encore quelques séances pour l'ICANN Toronto 45. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant devoir quitter la salle pour que cette salle serve à un autre forum.